VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 6 mai 2022. En direct de Washington, Idrissa Seboudia
et Nathalie Barge.
Nous commençons par les titres.
Au Burkina Faso, 11 personnes, dont 7 soldats, ont été tuées dans 2 attaques hier.
Fin aujourd'hui au Ghana de la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO sur la coopération militaire dans une région en proie à une insécurité croissante.
En République démocratique du Congo, Greenpeace demande une enquête judiciaire sur des contrats forestiers illégaux.
En Ukraine, un nouveau convoi de l'ONU est attendu ce vendredi pour évacuer les civils d'Azovstal à Mariupol.
L'Agence américaine des médicaments limite l'accès au vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, au moins 11 personnes ont été tuées dans une double attaque hier dans les régions du nord et du centre-nord. L'armée précise que c'est dans le cadre des opérations de sécurisation du territoire national que ces deux incidents sont intervenus. Un reportage de notre correspondant Lamine Traoré.
7 soldats et 4 supplétifs de l'armée, communément appelés VDP, des volontaires pour la défense de la patrie, ont été tués hier jeudi dans 2 attaques simultanées dans la partie nord du pays. C'est ce qu'a annoncé l'état-major qui précise que 9 militaires ont été blessés. Une patrouille du détachement militaire a été prise à partie lors de sa progression à une dizaine de kilomètres de Solé dans la province du Loroum, région du nord. 2 militaires et 4 VDP ont été mortellement touchés. Selon le communiqué de l'état-major, l'armée indique que des éléments de l'UGGN, l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale, en opération ont riposté à une embuscade tendue par des terroristes à Wanobe, dans la province du San Matenga, région du centre-nord. 5 éléments ont perdu la vie au cours de cet incident. Les blessés, au nombre de 9, ont été évacués et pris en charge, selon le communiqué de l'état-major. Une 20aine de corps de terroristes ont été dénombrés. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Les chefs d'état-major des pays de la CEDEAO ont entamé hier à Accra, au Ghana, une réunion de 2 jours visant à renforcer la coopération militaire dans cette région en proie à une insécurité croissante. Jacques Aristide.
À l'ouverture de la rencontre, le ministre ghanéen de la Défense a évoqué les groupes armés et criminels qui alimentent l'insécurité. D'après Dominique Nitiwul, en 3 ans, la région a subi plus de 5300 attaques imputées aux terroristes qui ont fait environ 16 000 morts et davantage de déplacés. Le ministre a appelé un plus grand partage de renseignements pour mieux surveiller les groupes djihadistes. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont aux prises avec des djihadistes et les États voisins comme le Ghana, le Bénin et la Côte d'Ivoire s'inquiètent de débordements à leurs frontières. En tant que professionnels, nous devons nous résoudre à enterrer nos différences imposées par notre nationalité, notre culture et aller de l'avant avec une plus grande collaboration, a déclaré Dominique Nitiwul, avant d'indiquer que la CEDEAO a autorisé le Mali, le Burkina et la Guinée à prendre part à cette réunion en raison de l'urgence. Les 3 pays ont été suspendu du bloc ouest-africain après des coups d'état militaires. C'est une bonne manière de faire les choses, s'assurer que nous travaillons ensemble pour mettre un terme aux dangers terroristes dans notre sous-région, a-t-il conclu. La réunion prend fin aujourd'hui.
Au Sénégal, procès des 6 sages-femmes poursuivies pour non-assistance à une personne en danger suite au décès d'Astou Sokna, une femme enceinte qui n'aurait pas reçu les soins nécessaires. Cette affaire qui a ému tout le pays a été jugée en audience spéciale après le report de la première audience. Un reportage de notre envoyé spécial à Louga, Seydina Abagay.
Un an de prison, dont un mois ferme, c'est la peine requise par le procureur de la République contre les sages-femmes poursuivies pour non-assistance à personne en danger. Suite à la mort de la dame, Astu Sokhna en couche à l'hôpital Amadou Sahir Mbaye de Louga. C'est justement dans cette localité située à environ 220 km au nord de Dakar que s'est tenu le procès. Si le juge a tenté de cerner les tenants et les aboutissants de cette affaire, les avocats de la partie civile ont plaidé la responsabilité des sages-femmes. Pour eux, la défunte Astu Sokhna n'a pas reçu les soins nécessaires. Une thèse balayée par les avocats de la défense qui jugent que les débats ont prouvé que les sages-femmes ont fait ce qu'il fallait en prodiguant les soins adéquats à la défunte patiente. Au terme de plus de 15 heures d'audience et de débat, le juge a donc décidé de mettre l'affaire en délibéré. En attendant le 11 mai 2022, jour retenu par le juge pour rendre son verdict. Ce dernier a également rejeté la demande de liberté provisoire introduite par les avocats de la défense. À Louga, Seydina Bagui pour VOA Afrique.
L'ONG de défense de l'environnement Greenpeace a demandé hier à la justice congolaise d'enquêter sur des accusations d'attribution illégale de concessions forestières entre 2014 et 2020 par 6 anciens ministres de l'environnement de la République démocratique du Congo, Claire Morin-Gibourg.
Nous avons demandé au procureur général près de la Cour de cassation d'ouvrir une enquête judiciaire, a déclaré Irène Wabiwa de Greenpeace Afrique, au regard des faits extrêmement graves qui sont exposés dans le rapport de l'inspection générale des finances. L'ONG espère obtenir la levée des immunités des parlementaires et établir les responsabilités de toutes les personnes impliquées. Greenpeace Afrique et 5 autres organisations ont cité nommément les ministres Robert Bopolo, Bienvenue Liyota, Atis Kabongo, Franck Mwedi Malila, Ami Ambatobe et Claude Nyamugabo, qui se sont succédés à la tête du ministère de l'Environnement de 2014 à 2020. Ils sont accusés d'avoir octroyé, dans un laxisme coupable, des concessions forestières en violation des lois congolaises. En octobre, avant la COP26 de Glasgow, le président Félix Tshisekedi avait déclaré avoir été saisi de plusieurs plaintes d'irrégularité dans l'octroi de concessions forestières et ordonné la suspension de tout contrat douteux.
Un nouveau convoi de l'ONU est attendu ce vendredi pour évacuer les derniers civils retranchés dans l'aciérie d'Azovstal à Mariupol, dernière poche de résistance ukrainienne dans ce port stratégique du Donbass, sans assurance toutefois d'une trêve dans les combats. Le point avec Eric Manirakidza.
Les Russes ont frappé de nombreuses cibles dans l'ouest, non loin de la frontière hongroise. Ils veulent, semble-t-il, perturber les approvisionnements occidentaux en soutien à Kiev. Dans l'Est, une frappe russe a fait 2 morts et 11 blessés, tous des civils, dans le village de Tchandrigolov, a déploré un responsable de la région de Donetsk. Des explosions ont eu lieu par ailleurs à Mykolaiv. L'ennemi a perdu le contrôle de plusieurs localités près des régions de Mykolaiv et Kherson, selon l'état-major ukrainien. Des assauts russes infructueux ont été observés à Novosilka et Oriiv, tandis que les Ukrainiens bombardaient les lignes d'approvisionnement ennemies. Un convoi russe a été détruit mercredi, affirmé de son côté l'Institut américain pour l'étude de la guerre. L'aide militaire et en matière de renseignement des Occidentaux à l'Ukraine empêche la Russie d'achever rapidement son offensive chez son voisin, a indiqué le Kremlin, assurant néanmoins que tous ses objectifs seraient remplis.
Ici à Washington, le Pentagone a démenti hier fournir des renseignements permettant aux forces ukrainiennes de viser des hauts gradés russes près du front, ainsi que l'a affirmé le New York Times.
La police israélienne mène une chasse à l'homme après une attaque qui a fait 3 morts dans la grande banlieue de Tel Aviv, perpétrée le jour de l'anniversaire de la création de l'État hébreu. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a condamné avec véhémence hier cette attaque qu'il a qualifiée d'horrible, assurant que les États-Unis se tenaient fermement aux côtés de leurs alliés israéliens.
ici aux États-Unis à cause de risques de graves thromboses, formation de caillots sanguins associés au vaccin de J&J. L'Agence américaine des médicaments a annoncé hier limiter le vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson aux seuls adultes refusant d'être vaccinés avec Pfizer ou Moderna pour cause d'inquiétude personnelle, ainsi qu'à ceux ne pouvant recevoir une injection de ces deux derniers vaccins pour des raisons médicales ou d'accès limité.
L'ancien président américain Donald Trump s'était enquis à deux reprises en 2020 de la possibilité de bombarder les laboratoires de narcotrafiquants au Mexique auprès de son ministre de la Défense, Mark Esper. C'est ce que rapporte ce dernier dans un livre qui paraîtra le 10 mai.
La Minute Éco, Mohamedou Houmfa.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a adopté mercredi un projet d'ordonnance portant exonération du droit de douane sur les importations de blé sur une période de 3 mois. L'annonce, relayée par l'agence ivoirienne de presse, a été faite par le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Selon lui, cette mesure a été prise à cause du coût du blé à l'international qui connaît une tendance à la hausse accentuée par la crise russo-ukrainienne. Le réseau social TikTok a annoncé mercredi qu'il allait étudier la mise en place du partage des revenus publicitaires avec les créateurs les plus en vue de la plateforme, dont des personnalités publiques et des éditeurs de presse. Ne seront éligibles à la première phase de ce programme que les comptes affichant au moins 100 000 abonnés, a précisé TikTok, qui dit vouloir que ses créateurs se sentent valorisés et récompensés. La conférence internationale des donateurs pour l'Ukraine, organisée jeudi à Varsovie, a généré 6,5 milliards de dollars de promesses de dons, selon le premier ministre polonais. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré que les efforts de solidarité se concentreront sur 3 domaines clés, l'aide humanitaire, les besoins de liquidité à court terme et la reconstruction de l'Ukraine.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Nani Talani.
Bonjour Idrissa. Bonjour à tous. Pour commencer, ces qualifications qui ont marqué la journée d'hier. Le club hollandais de Feyenoord obtient son ticket qualificatif pour la finale de Ligue Europa Conférence et aussi sa première finale européenne en 2 décennies après avoir fait un nul 0-0 contre Marseille en France hier en demi-finale de cette compétition. À l'aller, le club néerlandais avait battu la semaine dernière à domicile les Marseillais 2-3. Feyenoord affrontera l'AS Roma de José Mourinho lors de la finale le 25 mai dans la capitale albanaise Tirana. Le club italien AS Roma a battu les Anglais de Leicester 1-0 grâce à l'unique but de Tammy Abraham à la 11e après le nul 1-1 en Angleterre à l'aller. Mourinho, le spécialiste des compétitions européennes, est déjà vainqueur de 2 Ligues des Champions en 2004 et 2010 et de 2 Ligues Europa en 2003 et 2017. Autre qualification, celle de l'Eintracht Francfort qui a atteint sa première finale européenne depuis 42 ans après sa victoire 1-0 hier jeudi à domicile sur les Londoniens de West Ham en demi-finale de la Ligue Europa grâce à l'unique but de Raphaël Bord à la 26e. Les coéquipiers de Kevin Trapp, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain, atteignent la finale invaincue après 12 matchs dans la compétition. Le club allemand va défier les Écossais de Glasgow Rangers, vainqueurs des Allemands de Leipzig. La finale de la Ligue Europa se jouera le 18 mai à Séville, en Espagne. Pour leur ticket, les Allemands d'Eintracht ont dû éliminer en quart de finale le grand favori, le FC Barcelone, en allant s'imposer 3-2 au Camp Nou. Terminons par la Fédération chilienne de football qui a saisi la FIFA afin de contester la validité de la nationalité équatorienne du joueur Byron Castillo aligné contre le Chili en qualification pour le Mondial 2022. La plainte a été déposée pour usage d'un acte de naissance falsifié, fausse déclaration d'âge et fausse nationalité de Byron Castillo. Selon le Chili, il existe d'innombrables preuves que le joueur est né le 25 juillet 1995 dans la ville de Tumaco en Colombie et non le 10 novembre 1998 dans la ville équatorienne de Playas. Avec ce recours, le Chili, éliminé de la Coupe du Monde, espère que l'Équateur sera sanctionné et qu'il pourra disputer la Coupe du Monde à sa place. L'Équateur, qui se trouve dans le même groupe que le Sénégal, rejette ces accusations, assurant que Byron Castillo est dûment enregistré auprès de l'autorité légale compétente et possède tous les documents nationaux en règle pour être un citoyen équatorien.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, l'ancien président Alpha Condé fait face à la justice de son pays. Il est poursuivi, lui et 26 dignitaires du régime déchu, pour entre autres des faits d'atteinte volontaire à la vie humaine, notamment la complicité de meurtre et assassinat. Alpha Condé et ses proches sont poursuivis par le procureur général près la cour d'appel de Conakry. Les précisions de notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Première réaction, celle des victimes. Les faits sont douloureux et varient d'une victime à une autre. Mamadou Sylla a perdu son garçon de 14 ans quelques heures après l'annonce faite par l'opposant Seydou d'Alain Diallo qui s'était autoproclamé vainqueur de la présidentielle de 2020.
Mon neveu m'a appelé, il dit « Ah, oncle !» J'ai dit « Oui, où vous êtes ?» J'ai dit « Oui, je suis au travail, je suis dans mon atelier. » Il dit « Ah, vous connaissez ce qui se passe à la maison ?» J'ai dit « Non. » Directement, il m'a dit « Ah, ils ont fusillé Nassirou. » J'ai dit « Pourquoi ?» Le matin, on s'est déplacé. Ses camarades m'ont dit que son corps est à Niari Wada, dans la mosquée. On est parti. Effectivement, on a trouvé le corps là-bas.
Quelques heures après l'annonce des poursuites contre l'ex-président Alpha Condé et ses proches, l'envie d'une justice est encore plus grande chez ce vieil homme.
Quel que soit, moi j'ai confiance à la justice. Parce que j'ai confiance à Dieu. Je veux justice. Je veux justice et réparation.
Autre réaction, celle des défenseurs des droits humains. Pour Mamadi Kaba, juger les crimes de sang est une opportunité pour les autorités de la transition.
Je crois que cela permettra à la Guinée de renforcer son système démocratique et l'état de droit. Parce que sachez que quand la lumière va être faite sur ces événements, désormais on pourrait avoir des manifestations sans violence et la jouissance des droits civils et politiques ne va plus s'accompagner de meurtres, de violences et autres choses.
Dans les rues de la capitale, les poursuites annoncées contre l'ex-président Alpha Condé ne laissent presque personne indifférent.
Ce n'est pas au niveau du président Alpha Condé seulement. Il faut, si c'est la justice, ceux qui ont fait sortir les enfants aussi devaient être présents.
Parce qu'en convoquant un président de la République, logiquement, on trouve ça normal parce que c'est la justice. Personne n'est au-dessus de la justice. Mais le mieux, c'est de penser en africain.
C'est une bonne chose parce que dans un pays, s'il y aura la paix, s'il y aura l'harmonie, il y aura toujours la justice. Cette justice ne viendra que par l'État.
Parmi les personnes poursuivies par le procureur général près la cour d'appel de Conakry, il y a l'ancien président de l'Assemblée nationale, Kori Kondiano, ou encore Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense nationale. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Siguiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
Des proches de Nigérians enlevés par des hommes armés lors d'une attaque d'un train accusent les autorités de ne pas en faire assez pour les secourir. La Nigerian Railway Corporation affirme que plus de 160 personnes sont portées disparues depuis l'attaque en mars dernier. Un reportage de Timothy Obiezu à Kaduna, relaté par Lionel Gahima.
Se battre pour la vie tout en restant sous le choc de la dure réalité. La fille adulte de Fatima Aboubakar est portée disparue depuis que les gangs armés ont attaqué le train de nuit dans lequel elle est montée dans l'état de Kaduna le 28 mars. Des bandits ont fait sauter la voie ferrée, puis ont ouvert le feu sur le train. 8 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines ont été enlevées. Depuis, 2 d'entre eux ont été libérés, dont un directeur d'une banque de l'agriculture. Fatima Aboubakar dit que sa fille kidnappée a laissé 5 enfants derrière elle. Elle revenait de Kaduna après lui avoir rendu visite dans un hôpital d'Abuja où elle a subi 3 interventions chirurgicales à ses jambes fracturées dans un accident de voiture.
Vous avez l'habitude de venir me voir, de pleurer et de demander « que pouvons-nous faire ?» Je répondais « eh bien, que puis-je faire ? Je suis ici avec mes jambes sur le lit, je ne peux même pas descendre. C'est elle qui s'occupe de moi et maintenant, elle n'est plus là. »
L'agence de chemin de fer du Nigeria a déclaré que 168 personnes qui se trouvaient dans le train sont toujours portées disparues.
Jusqu'à présent, le gouvernement n'a rien fait. Nous n'avons pas eu de nouvelles du gouvernement.
Les autorités nigérianes affirment qu'elles négocient une libération inconditionnelle des personnes enlevées. Patrick Angbambou, fondateur de Security Watch Africa Initiatives, affirme que les 3 terroristes espèrent faire pression sur le gouvernement pour qu'il change les personnes enlevées contre certains de leurs hommes arrêtés par les forces de l'ordre.
Ce qu'ils veulent, c'est certains de leurs principaux commandants qui sont détenus par le gouvernement. Ils veulent les utiliser comme rançon, peut-être pour faire libérer leurs membres et attirer l'attention.
Des gangs armés sèment la terreur dans le nord du Nigeria depuis des années, tuant et kidnappant les personnes contre rançon. L'analyste en sécurité Kabir Adamou de Beacon Consulting affirme que le gouvernement doit être plus proactif.
Nous savons que les agences de sécurité font des efforts. Ils négocient la libération des victimes enlevées et il est très probable que dans les prochains jours, il y aura un certain succès. Mais il n'y a pas eu d'approche convaincante dans la gestion de la détresse subie par les familles ainsi que par les victimes elles-mêmes.
Mais les membres de la famille d'Aboubakar sont incertains quant à l'avenir. Le Sénat nigérian a adopté la semaine dernière un projet de loi qui criminalise les paiements de rançon et punit les contrevenants d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison. Le président Muhammadu Buhari doit le signer avant qu'il ne devienne une loi.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Les autorités kényanes forment les travailleurs domestiques et acceptent des emplois au Moyen-Orient sur leur droit après des années d'abus, de passage à tabac, de viol et des décès de ces employés. Les autorités kényanes affirment qu'il y a eu au moins 23 cas depuis novembre, la plupart en Arabie Saoudite. De Nairobi, un reportage de Victoria Omunga. Le récit est de Claire Morin-Gibourg.
Voilà un an que Bernard Njenga a appris que sa femme, Esther Toukou, est décédée en Arabie Saoudite où elle a été employée de maison pendant 3 ans. Les autorités saoudiennes ont signalé que sa femme s'est suicidée au domicile de son employeur, raconte M. Njenga, qui pense que son épouse, mère de 4 enfants, a été assassinée.
Le corps de ma femme ne portait aucune marque qui montre qu'elle s'était pendue, car il y aurait eu des marques autour du cou. Nous nous sommes rendus compte que son corps avait été enterré parce qu'il était très sale et qu'on aurait dit qu'elle avait été poignardée au côté gauche. Cela n'a rien à voir avec une pendaison.
Les autorités kényanes affirment que depuis novembre, au moins 23 travailleurs domestiques sont morts alors qu'ils travaillaient au Moyen-Orient. La plupart de ces décès sont survenus en Arabie Saoudite. Les autorités saoudiennes ont signalé que 23 décès résultaient d'un arrêt cardiaque. En avril 2020, Amnesty International a rapporté que les Kényans qui travaillent comme domestiques au Moyen-Orient se plaignent souvent de manque de paiement, de travail forcé, de violences physiques, de viol et de conditions de travail dangereuses. Aujourd'hui, le Kenya offre une formation à la sécurité aux travailleurs domestiques qui acceptent des emplois à l'étranger. Edith Murogo est directrice de l'East Africa Institute of Home Care Management à Nairobi.
So when you don't train them, then basically you are exposing them to exploitation and abuse.
Si vous ne les formez pas, vous les exposez à beaucoup d'exploitation et d'abus. Une partie de la formation comprend également une sensibilisation aux droits du travail. Ils doivent savoir négocier et parler aux employés de conditions d'emploi décentes.
Ces derniers font partie des 30 000 Kenyans qui migrent chaque année vers le Moyen-Orient pour trouver du travail. Le ministre du Travail, Simon Chelugui, a déclaré qu'il travaillait avec des responsables saoudiens sur des réformes du droit du travail.
We would want, in case, we would want them to also upskill their laws.
Nous voudrions qu'ils renforcent également leur législation pour protéger les travailleurs et les employeurs de manière égale, pour ne pas faire des discriminations et que l'attitude de l'employeur soit toujours juste. Deuxièmement, le salaire doit être raisonnable et proportionné au travail.
VOA a contacté l'ambassade d'Arabie Saoudite à Nairobi pour obtenir une réaction sur ces allégations de mauvais traitements et de décès de travailleurs kényans. Dans une réponse par email, l'ambassade a déclaré que le royaume ne tolérerait aucun mauvais traitement illégal envers qui que ce soit et a déclaré que Riyad travaillait avec Nairobi pour protéger les citoyens de toute infraction. Pendant ce temps, les responsables affirment qu'avec environ 2 millions de jeunes diplômés chaque année, selon les chiffres nationaux, et seulement environ 800 000 nouveaux emplois, de nombreux Kenyans vont continuer d'aller travailler à l'étranger pour trouver du travail.
Merci Claire. Ici aux États-Unis, la Banque centrale a annoncé mercredi une hausse de ses taux directeurs d'un demi-point de pourcentage. La Fed a agi pour tenter de contrôler l'inflation qui est au plus haut depuis 40 ans. Pour en savoir plus, Eric Manirakidza a joint Jean-François Seznec, spécialiste de la finance dans la capitale américaine.
Que la Banque centrale utilise pour prêter aux banques, aux autres banques, et les banques à ce moment-là peuvent emprunter de l'argent et repasser l'argent à leurs clients avec une marge bénéficiaire aussi. Ça donc augmente la capacité de prêter. Bien sûr, s'ils augmentent le taux de base, les banques vont à nouveau passer cette augmentation à leurs clients.
Est-ce une bonne décision pour vous? Vous l'attendiez?
Oui, tout le monde l'attendait. Je pense que même le marché des actions n'a pas tellement bougé. Il a même augmenté ce matin assez sérieusement parce que les gens avaient peur que la Banque centrale augmente son taux encore plus que de 1,5%. Et donc, comme ça ne s'est pas passé, le marché des actions a monté et tout le monde s'y attendait parce que l'inflation, bien sûr, est très importante. Et tout le monde s'attend au fait que ça va encore augmenter plus tard parce que l'inflation va continuer à augmenter.
La Fed a deux missions principales, assurer la stabilité des prix et le plein emploi. Paris réussit selon vous?
Alors oui, dans un sens, pour le moment, c'est encore réussi parce que l'emploi est extrêmement tendu aux États-Unis. Il y a presque un tout petit peu plus de 3% de chômage, qui est vraiment très peu, mais l'inflation est encore très, très importante. Alors en augmentant les taux, ils essayent, et pas trop pousser l'augmentation des taux, ils essayent d'influencer le montant de l'inflation, et tout en ne faisant pas trop de dommages au chômage.
Le dollar, c'est une monnaie qui est utilisée internationalement, beaucoup de pays en tout cas, en Afrique, pour importer. Quel va être l'impact sur ces pays qui utilisent le dollar?
Écoutez, c'est un impact difficile, bien sûr, parce que, et pas tellement à cause des taux d'intérêt, mais plutôt à cause du fait que l'inflation monte et que les pays africains vont payer encore plus pour leurs importations, ce qui, en fait, dans un sens, c'est pas trop mal, parce que ça va forcer un petit peu ou donner un peu une capacité aux pays africains de produire eux-mêmes, si vous voulez. Et ça, c'est peut-être une bonne chose, finalement. Mais c'est pas facile, bien sûr.
Jean-François Seznec, spécialiste dans les affaires et la finance. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sédoudia et Nathalie Barge. à la mise en onde de Fatouma Kalala Alimassi et à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.